Yes, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de la vie. C'est bon signe d'avoir autant de bruit, d'enfants. C'est excellent, ça me plaît. Ça me plaît. Vous êtes plusieurs à avoir vu, j'ai fait un mini-clip d'une minute et demie en début de semaine pour simplement expliquer, poser la question. Si Dieu existait, que lui demanderais-tu? Puis ça peut paraître bizarre comme question, surtout peut-être dans la bouche d'un pasteur. Puis en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, j'aimerais me mettre à la place de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui serait prêt à envisager la possibilité de son existence. Et je vais vous montrer ce qui a donné l'impulsion, l'inspiration, l'idée de ce message aujourd'hui. C'est, je vous encourage simplement à regarder la bande-annonce de ce film. Film qui, soit dit en passant, en même temps, c'est une annonce qui va avoir lieu. Je n'ai pas vu le film, qui va avoir lieu le 19 septembre à 20h au cinéma de Ferney-Voltaire. Et quand j'ai vu ce film, donc je n'ai pas vu ce film, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc rien dans ce qui va être fait dans cette matinée a été inspiré directement d'un scénario, mais l'idée est là. Alors je vous laisse découvrir le film en question.
Quand j'entends quelqu'un dire. J'ai perdu la foi.
Peut-être éteindre les lumières.
J'imagine s'il vous plaît. Qu'il renonce. Pour moi, ce fut différent.
Salut, Gary.
Qu'est-ce que tu fais ici?
Je travaille sur un projet. Je suis sur une sorte de conversation.
Avec qui?
Paul Asher, du journal des
Rats. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan.
Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît?
Je suis Dieu. D-I-E-U.
Ok, donc vous êtes Dieu, celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas?
Dites-leur que ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin.
Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention.
Vous ne la méritez pas?
C'est à propos de cette interview-là, ça prend une drôle de tournure. Si je t'envoie une photo, tu peux trouver qui c'est?
Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul.
Combien de fois encore il faudra que je m'excuse?
Beaucoup de choses se sont passées, je pourrais pas supporter de revivre ça.
C'est Sarah, elle m'a quitté.
Ton voyage en Afghanistan?
Je crois que le problème est plus profond, qu'il remonte à beaucoup plus loin.
Vous n'avez plus de temps à perdre.
Vous êtes en train de dire?
Oui.
Cette interview, ça bouffe à mort.
Il est réel, cette interview?
Ouais.
Avec Dieu?
Ouais.
C'est toi qui me dis de prier? Et alors?
Je voudrais vous parler de votre salut, Paul.
Alors vous êtes là pour me sauver?
Vous avez besoin d'être sauvé?
Comme tout le monde. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver?
Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front.
Paul, je vous ai fait un très grand cadeau, mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent. Avant qu'il ne soit trop tard. La vie n'est pas une audition pour accéder à l'au-delà.
Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir.
Qui êtes-vous?
Vous savez qui je suis.
Interviewer Dieu, c'est super.
Tu délires?
Je crois que Dieu mérite bien une première page, t'es pas d'accord?
Yes, combien croit que Dieu mérite une première page? Yes! Et ce matin, on va faire une première page pour Dieu, en son honneur. Et j'avais l'intention de me mettre à la place de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais à la place de cela, j'ai demandé à Ruben et Florian de prendre place dans le canapé. Et durant cette semaine, suite à ce clip vidéo, j'ai reçu une vingtaine de questions, 22 pour être précis, quelques-unes qui se ressemblaient, donc vraiment des questions différentes. Et on va simplement entendre les questions. J'aimerais préciser que toutes les questions que vous allez entendre, qui vont s'afficher sur l'écran, viennent pour certains d'entre vous directement, peut-être à vous aussi qui nous écoutez sur Internet, peut-être que vous êtes en train d'écouter ce message en rediffusion. Bonjour à vous aussi qui nous suivez via les ondes, via Internet. Et vous allez reconnaître, pour certains d'entre vous, si vous avez posé des questions, vous allez reconnaître vos propres questions. C'est possible que vous n'aviez pas posé cette question, mais que vous allez vous reconnaître dans les questions qui vont être mentionnées. Et j'aimerais aussi mentionner quelque chose avant de rentrer dans cette interview. En fait, c'est que il y en a 22, vous comprenez que là, il y a minimum 8 à 10 questions qu'on pourrait faire plusieurs dimanches complets dessus. Donc, je m'adresse aussi à tous les experts et passionnés de théologie. Vous allez être, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est classé, vous allez être déçus. Vous allez être déçus parce que je vais devoir répondre en mode vulgarisation. Je vais vulgariser mes réponses pour être en mesure de passer à travers notre temps. Le but de l'exercice n'est pas de faire une prouesse théologique dont vous allez être déçus. Il y a d'autres moments pour ça, ça serait possible. Le but n'est pas d'arriver avec mille et un arguments bibliques parce qu'on n'arriverait pas. Moi, j'aimerais bien prendre l'apéro aussi avec vous tout à l'heure. Donc voilà, avant que ce soit trop tard. Alors, donc simplement pour vous avertir, j'aimerais, avant qu'on rentre dans les questions, premièrement, j'aimerais surtout dire merci. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'être présent ce matin ou présent en train d'écouter ce message là où vous êtes actuellement. Merci pour votre participation, d'avoir joué le jeu pour certains, d'avoir osé aussi. Il y a des questions qui ne sont pas faciles à poser. Vous avez osé exprimer votre questionnement et ça prend du courage. Parce que ça me demande de franchir une barrière, de la peur du jugement, etc. Alors merci, parce que grâce à vous, aujourd'hui, on peut adresser ce sujet-là. Je ne prétends pas, je ne me mettrai pas à la place de Dieu quand je vais répondre, parce qu'au début, c'est ce que je voulais faire, mais tout d'un coup, je n'étais pas trop à l'aise de me mettre à la place de Dieu. Alors j'ai plutôt parlé au conditionnel en disant « je pense que Dieu pourrait répondre ça ». Donc je ne prétends pas avoir la réponse absolue, c'est juste une perception que j'ai personnelle influencée de ma connaissance de Dieu et de ma connaissance biblique. En parlant de la Bible, évidemment, il y a trois concepts, trois notions aussi que j'aimerais simplement vous communiquer pour que vous puissiez comprendre aussi sur quelle base est-ce que les réponses vont être apportées. Et ça prend une base. Et alors, on va regarder aussi ça, mais les trois notions, les trois concepts ou notions, le premier, c'est celui de la Bible. Le deuxième, c'est la notion du péché. Et la troisième, c'est la notion de la foi. Donc, c'est sur ces bases-là, nous croyons que la Bible est vraiment inspirée par Dieu, qu'il y a un message divin à travers ce livre-là. Alors, évidemment, que nos réponses se basent sur ce livre-là. Deuxièmement, c'est la notion de péché. On va la regarder un petit peu en détail aujourd'hui. Et c'est la notion de la foi. Donc, c'est sur ces bases-là. Après ça, c'est sûr, donc, ça évite, ça permet de comprendre sur quels critères est-ce que l'on discute. Donc, voilà. Je pense que j'ai pas mal passé à travers tout ce que je voulais vous communiquer en guise d'introduction. C'est parti. Interview. Pas avec Dieu, mais en tout cas, on va faire comme si. Ça va? Il y a un apéro après. Sûrement, vous n'allez pas d'accord, vous ne trouvez pas ça complet, vous avez d'autres questions, une question en soulève une autre. C'est le moment idéal. Soit vous pouvez venir me voir, soit que vous pouvez voir, il y a assez de personnes ici qui peuvent vous répondre. Et puis, donc, il y a des choses qui peuvent se compléter, soit aujourd'hui ou soit plus tard, de façon plus personnelle et privée. Excellent. Alors, c'est parti. Je vous écoute, chers amis.
C'est parti. Ah, ça marche. OK. Cher Dieu, si tu existes, pourrais-je avoir un tête-à-tête avec toi?
Oh! Waouh! Ça tombe bien! Parce qu'en fait, je ne veux pas seulement un tête-à-tête avec toi, j'aimerais avoir un cœur-à-cœur avec toi. En fait, je veux beaucoup plus qu'un tête-à-tête avec toi. J'aimerais avoir un cœur-à-cœur avec toi. Je suis content d'entendre cette question et je pense que c'est ce que Dieu nous répondrait si on lui posait la question. Est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec toi? Alors oui, ça me réjouit. Oui, la réponse est oui, plus que ça même. Je veux un cœur-à-cœur avec toi et je crois que Dieu veut un cœur-à-cœur avec toi aujourd'hui, là où tu te trouves, dans ce lieu ou ailleurs. Avez-vous une autre question?
Oui, alors moi je me demandais, la Bible reflète réellement ta parole? Parce que elle a été dictée par toi, mais ce sont des hommes imparfaits, influencés par le contexte qui l'ont écrite.
Oui, la question commence fort. Effectivement, donc tu as tout à fait raison. Bien que la Bible ait été inspirée par le souffle divin, souffle et esprit, c'est le même terme. Tu as raison. Elle a été écrite par des hommes imparfaits, qui ont été effectivement influencés par leur propre contexte de vie, d'histoire. Absolument. D'ailleurs, dans la Bible, on voit aussi que Dieu ne va pas occulter les imperfections de l'homme. On va voir même des héros bibliques, des héros de la foi, mais on va aller voir aussi sur leur vrai jour humain, dans leur imperfection, dans toute sa splendeur. Un jour, évidemment, on pourrait passer la prochaine heure sur ce sujet-là. Un jour, certainement, il va y avoir un message à l'Église du Cèpe qui s'intitulera « Il était une fois ». La Bible. Donc là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je vais simplement soulever, pour quand même effleurer une réponse, soulever quelques aspects qui nous laissent à penser que ce livre-là nous laisse à croire que ce livre-là est crédible et qu'il est sérieux. C'est très simple. La Bible est un ouvrage collectif. C'est un ouvrage collectif. Et pour rédiger un ouvrage collectif à plusieurs personnes, à plusieurs auteurs, il faudrait que ces auteurs-là se réunissent ensemble, se concertent pour mettre à contribution leur intention, leur projet, pour qu'il y ait une cohérence dans le livre qu'ils vont écrire. On est d'accord ? On est d'accord là-dessus, sur le principe. On ne peut pas rédiger un livre à plusieurs sans se concerter. Et c'est là une des particularités de la Bible, c'est qu'elle a été rédigée par plus de 40 auteurs différents qui ne se connaissaient pas. Juste ça. Sur une période d'environ 1500 ans, plus ou moins. Sur une période de 1500 ans. On parle de plus de 40 générations qui ont travaillé à cet ouvrage-là. Alors, lorsqu'on se penche sur ce livre-là, qui est un livre littéraire aussi, et qu'on réalise la cohérence qu'il y a dans ce livre-là, qu'on réalise la cohérence des propos, la précision et l'intention qui est décrite dans ce livre-là, sachant que ces 40 auteurs ne se connaissaient pas sans se concerter et qu'il y a une même ligne de pensée, ça tient du miracle. Pas besoin d'aller très, très loin pour ça. Ça reste aussi, évidemment, ce n'est pas une preuve en tant que telle, mais la Bible demeure encore aujourd'hui le best-seller des best-sellers, qui est distribué à plus de 4 milliards d'exemplaires durant les 50 dernières années. Donc, on ne parle pas d'un livre comme Harry Potter. Vous avez ici, la photo n'est pas très nette, mais dans les 10 livres les plus lus au monde, encore aujourd'hui, la Bible est en première position et en troisième, on trouve Harry Potter et il y en a d'autres qui suivent. Donc, c'est tout ça simplement pour dire, c'est pas n'importe quel livre. Il y a 7 règles strictes pour la reproduction de l'Ancien Testament qui ont été observées pour la rédaction de ce livre. On ne rentrera pas dans ces 7 règles-là. Mais c'est pour dire que ce n'est pas un livre qui a été fait à la légère. Il y a quelque chose de fort qui a été déposé de la part de Dieu dans ce livre-là. Encore une fois, un jour, on aura un message qui s'intitule Il était une fois la Bible. Pour l'anecdote, et je termine, pour l'anecdote, c'est intéressant parce qu'un jour, le philosophe Voltaire a dit, encore un siècle, il n'y aura plus de Bible sur la terre. Ça, c'est ce que Voltaire a dit à un moment donné. Et la maison de Voltaire, quelques années plus tard, est devenue le siège social même de la maison de la Bible. OK. Un livre qui a passé à travers les guerres, les persécutions, les flammes, au sens littéral du terme, il est là encore aujourd'hui. Avec tout ce que je viens de dire, je crois que la Bible est un livre qui est inspiré de Dieu par des hommes imparfaits. Oui.
OK. Alors, la Bible, ne répondant quand même pas à toutes les questions, sur quelle base sûre pouvons-nous fonder nos interprétations de la volonté divine ?
Yes, ça c'est intéressant comme question parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce livre-là, la Bible, n'est ni un livre de science, ni un manuel d'instruction pratique pour nos vies de tous les jours. Je m'explique. Bien souvent, on veut justifier la science avec des propos bibliques. La Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible n'est pas un livre de recettes sur les micro-situations de nos vies. C'est pas ça l'intention. La Bible, l'intention de la Bible, le but de ce livre-là, c'est de faire connaître Dieu, de faire connaître sa nature, son caractère, son fonctionnement, et par le fait même, le cœur de l'homme, l'être humain. Ça, c'est le but essentiel de ce livre-là. Maintenant, sur quelle base sûre pouvons-nous fonder nos interprétations ? Alors ça, c'est un gros morceau parce que c'est vrai que je peux lire un texte biblique, on peut être 50 ici et avoir une interprétation différente selon nos écoles chrétiennes, nos arrière-plans théologiques, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est une vraie et bonne question, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des écoles de théologie. L'interprétation de la Bible est une science aussi, donc il y a des cours qui se donnent pour pouvoir bien faire les choses, bien interpréter. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des dérapages et ça, ma foi, on fait partie de cette humanité où il y a des interprétations différentes d'une personne à une autre. Maintenant, dans cette question-là, c'est aussi comment interpréter qu'est-ce que la volonté divine. Donc, après avoir dit que ce livre-là n'est pas là pour répondre à nos micro-situations, il est évident que plus je connais le caractère de Dieu, plus je connais son cœur, son fonctionnement, et plus je suis en mesure d'appliquer ou d'interpréter à ma vie tous les jours pour dire, OK, là, ce que je fais là, il nous a créé avec une intelligence et un bon sens. Donc là, ce que je fais là, Ouais, ça reflète pas mal le cœur de Dieu dans le fond, dans la forme. Il y a des choses qui peuvent changer, mais dans le fond. Donc, plus je me rapproche de ce livre-là, et c'est le but de connaître Dieu, plus je connais Dieu à travers ce livre-là, et plus je suis en mesure de le calquer sur ma situation, puis dire ça ne fit pas, ou pas tout à fait. Alors, voilà, en gros.
Mais alors, d'où est-ce que tu viens et comment es-tu rentré dans l'univers?
Oh, OK. Il était une fois un homme qui s'avança sur une montagne. Et ce jour-là, j'ai décidé de me présenter à lui sous la forme d'un buisson ardent, d'un buisson en feu qui ne se consumait pas. J'ai pris la forme d'une flamme de feu qui ne consumait pas le buisson. Et cet homme-là, pour certains d'entre vous, vous le connaissez, vous avez entendu parler, peut-être pas personnellement, vous le connaissez, mais c'est Moïse. Et Moïse a eu à quelque chose près la même question dans le sens, moi, il ne m'a pas demandé comment est-ce que je suis rentré dans l'univers, mais Moïse m'a demandé, OK, il faut que je parle de toi à mes amis, c'est quoi ton nom? Et là, Dieu, voici ce qu'il lui a répondu, ben, tu leur diras que je m'appelle Je suis. Je suis celui qui est, je suis celui qui suis. OK, d'accord. Tout ça pour dire que Dieu est Dieu, Dieu est. Il est le Je suis. Il est le Dieu qui est présent. Donc, et l'évangile de Jean, quand il n'est pas à l'écran, mais ça fait allusion à Jésus, parce que Jésus est Dieu, et là on le voit clairement, on nous dit qu'au commencement, donc Dieu n'a pas eu besoin d'intervenir dans le monde parce qu'il est Dieu. Et au commencement était celui qui est la parole de Dieu, et là on sait que la parole, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Jésus, le Verbe incarné sur terre. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc, si j'étais Dieu, je pourrais peut-être dire, en fait, je n'ai pas besoin de rentrer dans le monde parce que je suis.
OK. Et que veux-tu dire Que veux-tu dire lorsque tu prétends que nous sommes créés à ton image?
Ok, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est vrai que l'humanité est capable du pire, mais on est aussi capable du meilleur? Est-ce que tu es d'accord pour dire que on est des créateurs, on aime créer, peu importe le domaine dans lequel on est, qu'on soit intellect, manuel, on aime créer. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on fait preuve d'imagination, on aime soigner les autres, prendre soin des gens, on aime calculer? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on aime les belles choses? Il y a des gens qui sont arrivés, il est beau le canapé. En passant, le canapé ici, parce que je fais une parenthèse, ça n'a rien à voir, mais je fais une parenthèse, OK. On est en famille, là. J'ai eu dernièrement, et merci encore une fois à toute l'équipe, un jour, on va vraiment prendre le temps de le souligner, mais ils ont travaillé fort pour que je puisse avoir un bureau, puis que je puisse avoir le genre d'inspiration qui m'amène à des dimanches comme celui-ci, par exemple. Et je ne pouvais pas amener toute l'église dans mon bureau, fait que je dis, on va amener le bureau dans l'église. Donc ça, c'est le canapé qu'il y a dans mon bureau. Revenons à nos moutons. Il y a des gens qui sont arrivés et disent « Ah, il est beau ce canapé et tout, c'est quoi, c'est qui ? » ?»« Ah, c'est ton bureau, waouh !» Et est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on aime les belles choses ? On aime les grandes choses, on aime le succès, on aime la réussite, on aime créer, on aime aimer, on aime être en relation, on aimerait avoir le secret de jouvence, hein, le secret de la, entre guillemets, vie éternelle, prolongation de la jeunesse, sans aller jusqu'à l'éternité, mais quand même, il y a un petit peu de ça. On est des êtres intelligents. Eh bien ça, en fait, tous ces aspects-là que je mentionne, pour moi, c'est l'ADN de Dieu dans l'humanité. Qu'elle soit croyante ou non, qu'elle soit corrompue ou non, c'est l'ADN de Dieu lorsqu'il nous a créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Maintenant, pour être un petit peu plus précis, la Bible dit « faisons l'homme à notre image ». Le mot « image », c'est « tselem ». Et à notre ressemblance, et en hébreu, le mot « ressemblance », c'est « démule ». Ce qu'il faut comprendre ici pour répondre à la question « que veux-tu dire lorsque tu prétends que nous sommes créés à ton image ?» c'est qu'en fait, ici, le mot « image » pour « tselem » fait allusion à une image qui renvoie à quelqu'un d'autre. On pense à la pièce de monnaie sur laquelle il y a une reine, un roi, un empereur. Que tu regardes la pièce et tu dis « oh, cette pièce fait partie du territoire de tel empereur ». Ça renvoie. Et dans ce sens-là, nous avons été créés à l'image de Dieu, où on nous regarde comme on regarderait une pièce de monnaie et ce dont Dieu s'attendrait, je pense, c'est que dans notre comportement, dans nos agissements, il y ait quelque chose en nous, dans nos paroles, qui reflète, qui renvoie à cet être supérieur qui est Dieu, le Créateur. Donc ça, c'est la notion d'image tselem. Et la notion de démule ici, c'est simplement pour dire que oui, on lui ressemble, mais nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas comme Dieu. Et pour résumer, pour faire simple, le mot tselem et le mot « démule » traduisent à la fois cette étroite appartenance avec Dieu, tout en ayant cette distance infranchissable avec Dieu parce qu'on n'est pas comme lui. Donc on est à la fois proche, mais on n'est pas comme. Donc être créé à son image, c'est un peu tout ça que ça renferme comme pensée.
Ok. Mais alors, pourquoi nous avoir créés ? En fait, tu t'ennuyais ou...
Non, écoute, Floriane, si je m'ennuyais, je ne serais plus Dieu. Si Dieu s'ennuyait, Dieu ne serait plus Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Dieu ne nous a pas créés. Je crois que Dieu pourrait dire, je ne vous ai pas créés parce que je m'ennuyais. Je vous ai créés pour le plaisir de partager mon œuvre avec vous et que vous puissiez gérer, assurer la gestion de cette œuvre avec moi, ensemble. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit que Dieu nous a créés. 1 Jean, chapitre 4, verset 16, va nous dire que Dieu est amour. Et dans cet amour, Dieu prend plaisir à partager ce qu'il est, c'est sa nature. Donc, et puis comme on l'a vu tout à l'heure, d'une certaine façon, il nous a créés parce qu'il voulait être représenté à travers nous. Il voulait que nous soyons cette image qui soit une prolongation de qui il est. Donc, c'est de l'amour. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? C'est juste de l'amour pur et simple, par amour.
Et pourquoi moi, j'existe ?
Oh ! C'est intéressant comme question. Vois-tu, un peintre d'œuvres d'art ne s'arrêtera pas de peindre malgré qu'il ait réussi son œuvre précédente avec succès. Un peintre d'œuvres d'art, ou peu importe le domaine, même un compositeur d'un chant, ne va pas arrêter de composer parce que le chant qu'il vient de faire est excellent, est populaire, il atteint des millions de likes sur YouTube, puis le gars va dire « Ok, c'est bon, j'arrête de faire de la musique. » Tout ça pour dire que Dieu, je crois, il t'a créé toi, moi aussi, parce qu'il n'y avait personne comme toi. T'es unique, t'es irremplaçable, et nous sommes une œuvre d'art. Et d'une certaine façon, c'est pour ça aussi que Ésaïe, le prophète Ésaïe, va dire dans la Bible que Dieu nous a formés pour sa gloire. Et un peu comme une œuvre d'art, c'est comme c'est ta gloire, c'est ton « waouh, regarde ce que j'ai fait ». À la différence près que nous ne sommes pas une œuvre d'art accrochée à un mur sur une tablette, on est doté d'une intelligence, on collabore, on travaille avec, il nous appelle à être participants avec Dieu. Et si tu existes, c'est simplement parce que personne d'autre que toi existe. Et de la même façon qu'aucun parent ne pourrait remplacer un enfant par un autre, de la même façon, il peut y avoir on peut être 7 milliards sur la planète, mais Dieu aime Ruben, comme s'il était le seul habitant de la Terre. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il a créé.
Alors, okay. Est-ce que tu penses que ce serait acceptable pour un chrétien de croire que il y a d'autres espèces qui ont été créées dans un autre univers?
Bonne question. Okay. En fait, bon, dans la Bible, rien ne nous mentionne qu'il y ait une existence ailleurs, une espèce vivante ailleurs dans l'univers. En même temps, dans la question, est-ce que c'est acceptable pour un chrétien d'imaginer une telle chose? Moi, je vois rien d'inacceptable dans le fait d'imaginer qu'il y aurait d'autres espèces vivantes ailleurs. Je ne crois pas que ni la Bible ni le Seigneur aient un problème avec ça. Pourquoi ? Parce que ça n'enlève rien à Dieu, en fait. Ça n'enlève rien à Dieu. Ça ne rajoute ni ne supprime rien à ma foi, du tout. Pas du tout. Je peux imaginer. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on s'imagine. Hein. Ici, dans cette place, on serait impressionné de voir le nombre de choses qu'on imagine. Donc, je ne crois pas que c'est mal en soi. Ceci dit, je trouve assez curieux quand je vois la facilité que nous avons à nous disputer les uns avec les autres. Comment est-ce que nous réagirions, admettons qu'on découvrirait une civilisation extraterrestre? On a de la difficulté à s'entendre aussitôt qu'on fait face à une culture différente de la nôtre. Et là, on voudrait, j'espère, ce serait cool qu'il y ait une autre civilisation. On n'arrive pas à s'entendre entre nous, mais ouais, ce serait génial qu'il y ait une autre civilisation. Ça fait un petit peu non-sens. Maintenant, juste pour le plaisir de s'imaginer, je ne vois pas de mal là-dedans. Ceci dit, j'aimerais juste dire ceci, et ça va être à l'écran. La découverte de vie extraterrestre, admettons que dans X années, on découvre qu'effectivement, il y a une autre espèce vivante ailleurs, n'égalera jamais l'œuvre extraordinaire de Jésus à la croix. Donc, pour moi, je veux dire, je peux imaginer tous les scénarios que je veux, et même en poussant le raisonnement en disant, ben, ça se peut que dans X années, on découvre une autre espèce vivante, ça ne changera rien à ma foi en Dieu. Une découverte extraterrestre n'égalera jamais l'œuvre extraordinaire de Christ à la croix. Donc c'est ce que j'avais envie de répondre sur cette question-là.
Et ne serais-tu pas un gamer pris de passion pour un jeu de simulation de vie dont nous serions les pions?
Oh, ça c'est fort, ça on l'entend souvent, Dieu qui s'amuse avec nous. Si Dieu était un gamer, il ne serait plus un Dieu d'amour, il serait un Dieu pervers. Et Dieu n'aurait jamais envoyé, et ça c'est prouvé historiquement, hein, qu'on soit chrétien, croyant ou non, que Jésus est venu sur la terre. Dieu n'aurait jamais envoyé son propre fils unique dans un jeu de simulation. Jamais. Et d'ailleurs, la mort de Christ à la croix, ce n'est pas une simulation, c'est la pire des atrocités. Son agonie, ses cris, son sang qui a coulé, ce n'est pas une simulation, ça a eu lieu. Un gamer peut faire mourir et faire souffrir ses personnages dans le jeu, mais je ne crois pas qu'un gamer, là on va être un peu dans le mode Black Mirror, pour ceux qui connaissent un peu, sinon ce n'est pas grave, mais je ne crois pas qu'un gamer s'amuserait à projeter son propre enfant de son monde réel dans le monde virtuel et puis après jouer avec et avec sa vie. Non, je ne crois pas que nous sommes des pions, je ne crois pas que Dieu est un gamer, parce que si c'était le cas, il n'aurait jamais envoyé son fils juste pour le plaisir de s'amuser avec des pions. Le prix était trop cher payé pour jouer comme ça. Et il tenait trop fortement à son fils pour accepter de payer ce prix à la croix. Donc non, je ne crois pas que Dieu est un gamer.
Ok, et du coup j'ai une autre question qui me pose un petit problème. Si tu savais tout, que tu avais déjà prévu la chute, tout ce qui allait venir après, c'est pas un peu cruel, non?
Ouais. Ouais, t'es pas la première personne qui me pose cette question. C'est vrai. Ce que beaucoup oublient, c'est que j'imagine que Dieu pourrait répondre ça. C'est que j'ai créé l'homme et la femme, et ma plus grosse marque d'amour en créant l'humanité, c'est de la doter d'une liberté. De la liberté de choisir, et c'est là ma plus grande marque d'amour et de respect. Je ne suis pas un tyran, je ne suis pas un dictateur. Je suis quelqu'un qui est amour et qui veut partager cet amour-là de façon libre et volontaire. Dire que j'avais prévu la chute, c'est vite dit, c'est un raccourci. Par contre, dire que j'avais déjà prévu, que je n'étais pas dépourvu lorsqu'il y a eu la chute, ça, ce serait plus juste. Dire que j'avais prévu la chute, c'est vite dit. Dire que je n'étais pas prise au dépourvu lorsque ça a eu lieu, ça correspond plus. Alors, selon moi, maintenant, je parle en tant que Philippe, ça correspondrait plus à ce que Dieu vivait lorsqu'il nous a créés avec la chute en bout de ligne. Ce qui aurait été réellement cruel, en fait, c'est de ne pas avoir prévu et pourvu pour un plan de secours, ou si vous préférez, un plan de rédemption. Ça aurait été cruel. Ça aurait été cruel, dans ma connaissance infinie, dans la connaissance de Dieu infini, de créer, de ne pas être pris au dépourvu, et en plus de ça, de ne pas prévoir un plan B, un plan de rédemption, si vous préférez. Ça aurait été cruel, parce que là, il n'y aurait plus de solution. Donc, j'ai plutôt pas été dépourvu parce qu'il s'est arrivé plutôt que l'avoir prévu. Parce que l'avoir prévu, ça sous-entendrait que je l'ai fait dans le but de, et puis que j'ai laissé. Donc, non. Voilà, c'est ce que je pense que la Bible et Dieu pourraient nous dire sur cette question-là. Mais je comprends la réflexion où, ouais, ça peut sembler cruel, mais non.
D'accord. Et moi, ma quête, c'est de trouver ma moitié et de créer une famille. Je m'en rends de plus en plus compte. Et le bon Dieu ne m'a pas beaucoup aidé de ce côté-là.
Alors, je vous présente Ruben. T'as quel âge? 22 ans, disponible.
Et mon numéro à la fin.
Le numéro va s'afficher sur l'écran. OK. Bonne question. La famille fait partie des rêves et des projets que Dieu a pour les hommes, les femmes, etc. C'est pas une obligation, parce que le célibat n'est pas une malédiction non plus. Mais oui, la famille fait partie des projets que Dieu a pour l'être humain. Mais c'est une question qui est un peu complexe dans le sens, encore une fois, je reviens au fait que Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à t'aimer. Donc c'est complexe parce que, je le dis, on est libre. Dieu veut partager cette vie avec nous. Il respecte notre choix, il nous a créé avec une intelligence. Et donc il y a une portion aussi, donc je ne te connais pas personnellement pour cette question-là. Je ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu te comportes. Il y a une portion où possiblement, où il y a une part qui peut-être t'appartient sur comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu parles, quelles sont tes habitudes de vie. En bref, est-ce que ce que tu fais a tendance à inspirer, attirer une femme, une fille à vouloir vivre sa vie avec toi ou non? Peut-être que c'est le cas aussi, c'est pour ça que je dis que c'est complexe. C'est possible aussi que Dieu t'ait déjà donné un coup de pouce, mais que tu ne l'aies pas considéré comme étant venant de Dieu. Et je pense qu'on connaît tous des personnes aussi comme ça. Il y a aussi, encore une fois, je ne te connais pas, donc ce n'est pas des jugements que je pose, hein, c'est des pistes, une question qui est complexe. Encore une fois, on connaît tous des personnes. Moi, j'ai connu des gens qui ont passé un grand nombre d'années à dire « Moi, je ne trouve pas la femme de ma vie, je ne trouve pas l'homme de ma vie. » Et puis qui avaient eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir le mari ou la femme potentielle pour sa vie. Mais à chaque fois, ses attentes étaient tellement élevées qu'en fait, la personne a fini seule parce qu'elle était soit pas assez belle, soit pas assez humoristique, soit pas assez intelligente, soit pas, elle n'aimait pas assez le voyage, soit elle était trop ceci, pas assez cela. Puis là, tu passes ces années, puis à un moment donné, il y a aussi ça. Dieu peut faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, si tes attentes sont là, donc voilà. Donc c'est très, très difficile de répondre à cette question sans te connaître personnellement. Ce que je peux dire, c'est que Dieu n'est pas indifférent à ton besoin, à ta situation de vouloir fonder une famille. Et je crois qu'il veut certainement t'aider dans cette démarche, dans cette recherche tout à fait légitime. Donc, décourage-toi pas. Je crois que le Seigneur va t'aider à voir clair et trouver la bonne personne. Voilà.
Alors, tu as parlé un peu de libre arbitre, mais du coup, comment est-ce que je pourrais concilier le libre arbitre, la prédestination et puis l'intervention divine?
Bon, ben, c'est maintenant qu'on va aller prendre l'apéro. Est-ce qu'on peut se mettre en mode de fuite? Non? Bon. J'en tombe. Ça, c'est toute une question. Toute une question. Alors ça, c'est le sujet. Parenthèse, ça a fait couler de l'encre parmi les plus grands théologiens. Ça a divisé des églises, des chrétiens, des croyants entre eux. C'est énorme comme question. Et là, je vais vraiment la vulgariser au maximum selon ma perception. Parce que je vais être franc avec vous, ce n'est pas le genre de question dans ma vie qui est prioritaire dans ma vie de foi. Je suis quelqu'un de, j'essaie d'être le plus pratique possible, mais en même temps, je comprends que ça peut préoccuper et déranger beaucoup de personnes. Donc, comment concilier libre arbitre, prédestination et intervention divine? On est dans la vulgarisation, chers théologiens. Préparez-vous à la plus grande déception de votre vie sur le sujet. Bon, Dieu étant le « je suis », c'est-à-dire qu'il est... C'était quoi la photo? Pardon? Non. Okay. Est-ce que vous avez le temps de prendre la note? Ok. Donc, elle est bonne. Dieu est le je suis, on l'a vu tout à l'heure. Dieu est le je suis. C'est-à-dire que Dieu, pour Dieu, connaître l'avenir n'est pas sa seule spécialité. Vous êtes là? Prédestination, libre arbitre, intervention de Dieu. Pour Dieu, connaître l'avenir, ça c'est ma perception, n'est pas sa seule spécialité. Je crois que si notre Dieu avait comme unique spécialité de connaître l'avenir, nous aurions un Dieu limité, un Dieu simpliste. Parce que, et là, vous dites, comment ça, connaître l'avenir, c'est quand même, faut être Dieu pour connaître l'avenir, quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Je crois que le je suis est en mesure de prévoir toutes les alternatives possibles avec les probabilités de scénarios ou les issues de probabilités, les probabilités d'issues qui peuvent en découler. Je crois que Dieu, je vais m'expliquer, Dieu est ce Dieu je suis. Il ne fait pas juste connaître l'avenir. Dieu est ce Dieu qui est en mesure de connaître chaque alternative prise à partir d'un choix, chaque probabilité issue d'une décision spécifique et personnelle. Je crois que, ça c'est encore, c'est hypothétique, c'est ma perception. C'est pas la Bible. Je déduis de ce que je connais un peu de Dieu et de la Bible. C'est une déduction personnelle que je fais. Je crois que dans le cerveau de Dieu, si on pouvait le voir, eh bien on verrait mille et une. Ok, si Philippe il descend puis qu'il continue à faire ça, voici ce qui va arriver. Si par contre il descend puis hop, voilà ce qui pourrait arriver. Et je pense que dans les mille et une possibilités qui pourraient arriver à partir de mon scénario, Dieu les voit toutes. Et étant donné qu'il est le Je suis, peu importe ce que je vais faire, à partir de ma situation, Dieu peut intervenir. On est dans l'intervention. Il peut intervenir. C'est comme ça que je vois Dieu. Et là, vous dites, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Ok, stop. L'être humain, peut-être que, moi j'imagine que si Dieu pouvait s'asseoir ici, il dirait, ok, stop les amis. Vous avez pu, vous, être humain, avec l'esprit limité que vous-même êtes conscient, concevoir, imaginer un scénario, un film, qui ressort dans les deux derniers Avengers, pour ceux qui l'ont vu au cinéma, dans lequel il y a un super-héros qui s'appelle Doctor Strange. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Et ce Doctor Strange-là, il a cette capacité dans ce scénario de Marvel hollywoodien, à ce pouvoir, à ce don, de pouvoir, il se met comme ça, il se concentre, et là, il a toutes les alternatives devant lui, puis à la fin, il arrive, il y en a juste une, puis il y en a je ne sais plus combien de milliers, ou bref. C'est pas ça qui est important. Mais capable de le voir. Je pense que si Dieu serait ici, il pourrait nous dire, vous avez été, vous, en tant qu'être humain, capable d'imaginer un super-héros doté de tel pouvoir, imagine-toi, moi, qui suis Dieu. Et moi, ça me rassure tellement. Et c'est ce qui m'aide un peu à composer avec le fait de la prédestination versus mon libre arbitre. Au niveau de la prédestination, je vais encore une fois la vulgariser, je crois, pour faire très simple, que lorsqu'une personne est en phase avec Jésus, qui met sa confiance en Jésus, qui place sa foi en lui, je crois qu'à partir de ce moment-là, la personne qui est en phase avec Jésus entre dans une destinée qui lui était prédestinée. Je crois que lorsque, et je le vois dans ma vie, lorsque je me suis mis en phase avec Jésus, eh bien, je suis rentré dans une destinée qui, je crois, m'était prédestinée. Et cette vie prédestinée, c'est une vie abondante et sans fin. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour donner ma vie afin que mes brebis, pour dire ses enfants, afin que les miens aient la vie en abondance. Donc je crois que ça, c'est ce don à quoi nous sommes prédestinés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je rentre et je suis dans cette destinée précise de cette vie sans fin, de cette vie d'abondance, d'amour, etc. Et en même temps, je suis dans ce libre arbitre où, à travers mes dons, mes capacités, mes talents, ma personnalité, mon caractère, eh bien, Dieu compose avec ça. Je n'aime pas la pensée et je comprends, des fois, on le dit moi-même, des fois, je dis, ah, Dieu a permis. Je n'aime pas cette pensée, Dieu a permis. Puis, là encore, les théologiens vont être déçus, on pourrait le développer, c'est pas le but ce matin. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que Dieu a permis, ça veut dire que si ton enfant s'est fait violer, Dieu l'a permis. Si aujourd'hui je sors et puis je me fais frapper par un troc, un camion, Dieu a permis. Ça, ce n'est pas le Dieu que je connais. Parce que moi, je ne permettrais jamais que mon fils ou ma fille se fasse violer ou frapper par un camion. Jamais. Puis si moi, dans mon cœur corrompu de père, donc imparfait, j'ai ce cœur-là, Dieu qui est amour, je ne pense pas que c'est ce genre de Dieu-là. Puis comment faire la paix avec un Dieu qui permet, peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui sur Internet ou ce matin dans cette salle. Peut-être que tu as été violé. Je prends des exemples lourds. Peut-être que tu as perdu ton enfant. Peut-être que tu as des tragédies atroces. Puis c'est difficile de faire la paix avec un Dieu qui a permis ça. Puis le concilier avec ta amour? Non. Je crois que ce Dieu-là connaît toutes les alternatives. Et à partir... Je ne crois pas que Dieu permet, je crois par contre, ceci dit, je crois par contre, qu'à travers le, et j'en suis ému, qu'à travers le pire des cauchemars dont aucun vocabulaire pourrait décrire, à partir du pire des cauchemars de ta vie, Dieu est le Je suis qui te prend là où tu es, il marche avec toi. et peut changer ta destinée pour le meilleur, malgré tout ce que tu as vécu. Et même, pour, dans certains cas, il peut même se servir de ce malheur-là pour sa gloire, pour pouvoir en faire quelque chose d'utile et merveilleux. Mais je ne crois pas que Dieu permet des choses-là pour faire quelque chose d'utile et merveilleux. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, ça, c'est un peu la vulgarisation que je voulais apporter sur ce sujet de la prédestinée. Et je suis convaincu que quand on rentre, on se met en phase avec Jésus, je rentre dans ce qui m'était prédestiné. Je rentre dans une destinée qu'il m'avait prévue. Voilà.
Il existe des non-chrétiens plus vertueux que certains chrétiens. Sont-ils vraiment destinés à l'enfer?
Wesh! Il y avait des questions solides, hein? Il y a eu des moments où j'avais envie d'annuler ce dimanche. Ou faire autre chose. OK. Je pense qu'on a une très mauvaise lecture de ce que c'est l'enfer. Et de la compréhension de l'enfer. Là aussi, ça mériterait un ou plusieurs messages sur le sujet. Mais OK. L'enfer, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, l'enfer, essentiellement, fondamentalement, c'est être séparé de l'amour de Dieu. L'enfer, c'est de séparer de l'amour de Dieu. Je crois dans la question, sont-ils vraiment destinés à l'enfer? J'ai envie de répondre, l'enfer n'est destiné pour personne, sinon le diable et ses démons. L'enfer est destiné pour absolument personne. Ça, c'est pas le cœur de Dieu, du tout, du tout. La Bible décrit deux destinations possibles. Il y a ceux qui, que ce soit ici-bas ou par la suite, il y a ceux qui sont aux côtés de Dieu, qui marchent avec lui, qui le suivent. Il y a ceux qui se tiennent loin, qui ne veulent rien savoir, pour toutes sortes de raisons, même parfois légitimes, compréhensives. Donc il y a deux destinations possibles. Être loin de Dieu, on l'a vu, Dieu est amour. Être loin de Dieu, c'est être loin de l'amour parfait. C'est être loin de l'amour de Dieu. Et être loin de l'amour de Dieu, c'est l'enfer. Des fois, on va le dire dans nos expressions, des bouchons dans la circulation, ah, c'était l'enfer aujourd'hui, c'est l'enfer, cette situation, c'est affreux, j'ai passé une semaine, c'est infernal, c'est l'enfer. J'aimerais dire qu'en fait, être loin de l'amour de Dieu, c'est l'enfer. Parce que l'être humain a été créé pour aimer et être aimé. Et puis, le seul qui puisse combler parfaitement ce besoin-là, c'est Dieu, à travers son Fils à la croix. Et être loin de son amour, c'est déjà le début de l'enfer. Et là, j'entends certaines personnes, « Ouais, mais la Bible parle des flammes de l'enfer et tout. » OK, personnellement, je ne suis jamais allé. J'espère ne jamais y aller. je sais qu'il y a des... On nous parle de flammes. Il y a aussi derrière ça pour nous montrer une intensité, une gravité. Est-ce que c'est des flammes? Est-ce que ce n'est pas de flammes? Est-ce que... Ça, c'est décrit comme ça. Ultimement, l'enfer, c'est beaucoup plus que des flammes. C'est être séparé de Dieu. Pour certains, ça a déjà commencé ici-bas, l'enfer. Je crois que ce n'est pas comparable avec ce qui attend sur une proportion d'éternité, mais c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, je vais continuer, en fait. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que Dieu, en fait, a justement envoyé son Fils sur une croix semblable à celle-ci, vivre l'enfer à ta place et à ma place. Il l'a déjà vécu, l'enfer. Non seulement physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement, à tout point de vue, mais il est descendu en enfer. Et Dieu a envoyé Jésus à la croix pour vivre l'enfer à ma place. Ce qui appuie mon point pour dire Dieu ne prévoit pas l'enfer pour personne. Personne. Personne n'est destiné à l'enfer. C'est curieux parce que souvent on entend ce genre de réflexion. Ouais, mais on parle d'un Dieu d'amour, puis dans le fond, si on ne marche pas avec lui, on va en enfer. Mais il y a comme un paradoxe, il y a comme une grosse contradiction parce qu'on passe notre temps à entendre des revendications. Ouais, si ton Dieu il existe. Moi souvent, si ton Dieu il existe, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Elle est où la justice? Puis telle personne, puis tel drame. Et nous-mêmes, dans notre système social, partout, hein, toutes civilisations confondues, on a des règles de comportement avec des conséquences. On a une justice. On se fait voler quelque chose, puis on réclame justice, justice, justice. Et là, il y aurait comme une entre guillemets justice, puis on dit ouais, mais c'est pas un Dieu d'amour. OK. Ceci dit, je reviens encore une fois à ça, ce n'est pas Dieu qui envoie personne en enfer. Je vous donne l'image suivante. Tu es dans un désert. Tu crèves de soif. Tu n'as pas soif, tu ne meurs pas de soif, tu crèves de soif. Et là, je te dis tiens, j'ai un bon verre d'eau, là. Peut-être que tu ne réalises pas tout ce qu'il y a dedans parce que tu ne vois pas à travers, mais tiens, prends-le, ça va te désaltérer, ça va faire du bien. Non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne vois pas, je ne peux pas croire, je peux pas boire dans cette eau parce que je vois la bouteille, mais je ne vois pas ce qu'il y a dedans, je ne peux pas croire. Tant que je ne vois pas, je ne peux pas croire. Non, moi, je ne la veux pas. Mais tu as soif, tu meurs de soif, tu as un besoin, tu meurs d'amour, tu as un besoin, tu veux des réponses, tu veux des à tes questions. Puis Jésus, ou quelqu'un pourrait être là et dire, OK, tiens, bois. Tu ne bois pas. Tu meurs dans un désert infernal, aride. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai fait preuve de manque d'amour, de sensibilité, de compassion? Je te l'ai proposé. C'est pas moi qui t'ai envoyé dans ce désert crevé de soif. Je te le donne. Et Jésus a envoyé son fils à la croix pour nous faire éviter. Et là, on est non, je veux pas. Donc, c'est nous-mêmes qu'on se prive d'être dans la présence de Dieu. Donc l'enfer n'est pas destiné pour aucun être humain. Et quand il dit, tout le monde connaît cette phrase, tout est accompli. Personne ici est destiné à l'enfer, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Si quelqu'un d'entre nous y va, c'est parce que tu as refusé la bouteille d'eau qui était offerte. Tu n'y as pas cru, tu n'as pas voulu, peu importe les raisons, mais ce n'est pas un manque d'amour de la part de Dieu. Je vais terminer avec ça pour cet aspect-là. Ce n'est pas là aussi, il y a quand même cet aspect-là aussi à relever par rapport aux chrétiens vertueux versus des gens qui sont plus vertueux que des non-chrétiens. Moi, j'ai des amis, effectivement, c'est des meilleurs exemples que certains chrétiens, ou même de moi-même. Il y a des amis non-chrétiens qui, je regarde avec ma propre vie, puis je dis « wow, ça me parle, ça me confronte », je dis « ok ». Si notre ciel, parce que c'est une question qui est très dure, j'ai des amis proches qui ne croient pas en Dieu, et elle est tortueuse, cette question-là, parce que je me dis « mais Seigneur, regarde !» C'est super personne. Mais en fait, c'est là qu'on ne réalise pas. C'est que si c'était comme ça, ça veut dire qu'il y aurait une injustice, ça veut dire que je pourrais acheter mon ciel par mes mérites. Et là, ce n'est pas juste parce qu'il y a des personnes qui ont une plus grosse force de caractère que d'autres pour, par exemple, arrêter de fumer ou adopter telle discipline dans la vie. Puis moi, peut-être que je n'ai pas cette force de caractère-là. Mais là, ce n'est pas juste parce que je n'ai pas été doté de la même capacité. Puis lui, il peut parce qu'il était doté. Puis lui, il mérite ce qu'il y a de mieux, puis moi, c'est pas juste. Et on pourrait plus parler de la grâce de Dieu et d'un Dieu qui fait grâce. À ce moment-là, c'est plus Dieu qui sauve, c'est l'homme qui se sauve lui-même. Et j'ai simplement envie de dire que ce n'est pas de nos comportements non vertueux que Jésus est venu nous sauver. Ce n'est pas de nos comportements non vertueux que Jésus est venu nous sauver, mais de nos cœurs tortueux, infecté par le péché, ce qu'on appelle le péché. Il y a une question qui n'est pas là, mais je vais la mentionner, ça c'est ma question à moi, qui pourrait être, ouais, le péché, mais tu ne penses pas que c'est un peu démodé le mot péché? Bon, en fait, on va faire quelque chose, on va ouvrir nos tablettes, nos smartphones, on va regarder les nouvelles, on va regarder ce qui se fait un petit peu sur la surface de la Terre, pas besoin d'aller très loin, on peut rester dans la région de la France. Alors, il n'y a peut-être pas le mot péché, mais on voit de l'injustice, on voit de la méchanceté, on voit de la cupidité, on voit... C'est le cœur de l'homme. Et c'est de ça que Jésus est venu nous sauver. Je termine sur ce point-là avec ce verset qui est vraiment parlant, qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ma vie à comprendre. C'est Ésaïe qui va le dire. « Et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. » Le Nouveau Testament va dire il n'y a aucune distinction, tout le monde en péché, ils sont privés de la gloire ou de l'amour de Dieu. Mais ici, c'est intéressant parce que tous nos actes de justice, tous nos actes vertueux, aux yeux de Dieu, c'est comme un vêtement pollué. Et puis là, on veut, ouais, mais moi, je suis quand même vertueux. Mais alors, c'est-à-dire que malgré tout ce que je fais, je peux te séparer de toi? Non, c'est pas à cause de si tu es séparé de moi, c'est parce que tu ne veux pas encore une fois cette bouteille d'eau. C'est ton cœur que je veux changer, c'est pas le comportement. Et ça, c'est le. Voilà. Ça nous fait réaliser que c'est de ça que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Carrément, en fait. Et on est tous en pied d'égalité. Alors, c'est une question qui est difficile, mais ça démontre, par contre, encore une fois, que l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui est sérieuse, et puis qu'on n'est pas dans un jeu de simulation. Puis, il n'y a aucune crainte à avoir, parce que tout est accompli.
Et du coup, si on croit à la nécessité de la fin du monde pour l'avènement d'un monde meilleur, d'un monde parfait, le christianisme et l'écologie, ça ne s'oppose pas ?
Très bonne question, surtout aujourd'hui. Christianisme, écologie, est-ce que ça s'oppose dans la pensée où, voilà, un monde fini? En fait, j'aimerais dire que non seulement ils ne s'opposent pas, mais je crois qu'ils se complètent et même devraient être en parfaite harmonie, devraient. Je ne crois pas que le christianisme et l'écologie s'opposent du tout. En fait, si l'homme avait exercé depuis le début son mandat qui lui a été donné par Dieu de prendre soin de la création, de son environnement, on ne serait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui écologiquement parlant. Pas du tout. Parce qu'on a eu reçu ce mandat de prendre soin de notre environnement. Par rapport à la question de, en fait, il va y avoir une fin qui va arriver, tout va finir par finir, ok? C'est pas parce que je suis dans un bateau où il y a deux trous dans la coque que je dois en faire un troisième. Je ne sais pas si c'est clair. Oh, c'est pas grave, moi je suis chrétien, puis de toute façon c'est tout fini, fait que, allez, ma bouteille de plastique, bam, boum, je vide mon cendrier partout, mes poubelles, puis voilà, c'est pas grave, c'est la fin du monde, allez, let's go les amis, on sait ça, allez. Mon bateau est cool parce qu'il y a deux trous, allez, c'est fini, allez, tant qu'à y être. Il y a des gens comme ça par contre, hein, tant qu'à y être, allez, on... Mais je crois pas que c'est pas parce qu'il y a deux trous que je vais faire un troisième. Tout ça, en fait, pour dire que même si on est conscient et convaincu que tout finira un jour par finir, je demeure convaincu que je suis appelé à être responsable par rapport à mon environnement, par rapport aux gens qui m'entourent, sans pour autant non plus me transformer en militant extrême de l'écologie. Là aussi, il y a un équilibre à avoir. Parce que le militantisme écologiste peut devenir une religion en soi. Juste comme ça, en passant, ça aussi. Donc, entre l'extrême, puis sortir tous les matins ou tous les soirs avec ma pancarte, versus ne pas prendre soin de la planète et puis faire n'importe quoi, entre deux, il y a une responsabilité à avoir. Et puis, dans l'optique de « un jour, ça va finir », ben, en fait, il y a une paix, il y a une espérance qui est là. De, non, ce n'est pas incompatible, mais Seigneur, OK, aide-moi à prendre soin de ce que je peux pour le temps qui m'est donné. Et puis, en même temps, ben, merci parce que j'ai une paix, parce qu'en bout de ligne, je suis attaché à toi. Ça va?
Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a des maladies?
Yes, pourquoi les maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités dans les souffrances? Il y en a qui souffrent plus que d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont malades, d'autres qui ne sont pas malades? Comment ça se fait qu'on peut avoir un sportif toute une vie et puis à l'âge de 45-50 ans, n'a pas fumé, n'a pas bu, n'a pas respecté ses heures de sommeil? Boum, AVC, cancer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la planète se dégrade? Je vais faire court sur cette question parce qu'elle est résumée, elle est résumée par les précédentes. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Lorsqu'on s'est détourné de Dieu, on a perdu. Lorsqu'on s'est détourné du Père, on a perdu notre repère. » Et à partir de là, il y a une déconnexion. Et puis, tout est n'importe quoi. Il y a une malédiction qui s'est entraînée. Donc, la maladie, tous les fléaux, tout ça, ce n'est pas le monde que Dieu avait souhaité. C'est la conséquence du péché. C'est pour ça que Christ est venu pour... la rédemption, pour qu'en lui, on puisse justement connaître. Donc, c'est ce qui explique, quand moi, j'ai découvert Jésus pour la première fois, je vous le dis, là, j'étais complètement explosé. Là. Si vous trouvez que je suis des fois explosé, c'est rien, ça. Moi, j'arrivais partout. Ça y est, j'ai enfin compris la raison de pourquoi, du comment, de ce monde-là. J'ai compris. On s'est détourné de Dieu, on est complètement aveugle, on fait tout n'importe quoi, on se cogne partout. J'ai compris. La réponse est dans la Bible, la réponse est en Jésus. J'étais fou. Parce que j'avais compris, je dis, OK, voici la source, ça vient de là. C'est l'injustice, la maladie, les abus, tout ça, le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant d'arriver à la mort, le péché, je le vois comme un virus. Et puis, un virus dans une clé USB, la clé USB par elle-même, par exemple, ne peut pas s'enlever elle-même le virus. Pas besoin d'être informaticien pour savoir ça. Tu as besoin d'apporter ta clé USB ou ton ordi chez un spécialiste qui connaît ça, qui va extraire le virus. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Tu ne peux pas par toi-même te sauver et enlever ce virus du péché qui t'amène à toutes sortes de comportements, mais Jésus, il peut le faire. Yes, on continue. On okay. Achève.
Alors, vous m'excuserez du terme, hein, mais si tu nous aimes tant, là, Lolo, pourquoi est-ce que tu nous laisserais dans la...
Dans la mouise. C'est une vraie question, je précise, ce n'est pas moi qui ai fait les questions. En fait, encore une fois, l'évangile est une bonne nouvelle, ça veut dire bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous sauver, il est le Je suis, il est l'Emmanuel, à Noël on chante, il est le Dieu avec nous. Donc on pense parfois qu'il nous laisse dans la mouise, mais il n'est pas, au contraire, il est là, et puis il n'est pas seulement présent pour une espérance après la vie, il est déjà présent. Il veut marcher avec toi et c'est pour ça qu'il cherche à se faire connaître, parce que justement, il ne veut pas nous laisser tout seuls dans notre situation. Donc, psaume 23, l'Éternel est mon berger. On peut être dans la pire des mouises, le pire des troubles, le pire des problèmes, des situations personnelles ou quoi que ce soit. Mais le Dieu qui s'est révélé est un Dieu qui est vivant, qui est présent, qui est là. Ça va? On continue.
Qu'est-ce que ça changerait à ma vie s'il n'existait pas?
Alors, derrière cette question, il y a une souffrance, j'imagine. Je peux imaginer qu'il y a une souffrance. Et derrière cette question, il y a aussi peut-être quelqu'un qui ne considère pas dans sa vie, qui n'a pas mis dans l'équation de sa vie l'existence de Dieu. C'est comme si on est dans la même pièce, et puis je me comporte comme si vous n'existiez pas. Alors, c'est sûr que si vous sortez de cette pièce-là, ça ne changera rien, puisque ça ne changeait déjà rien dans mon comportement par rapport à vous. Donc, ça ne changera rien, que Dieu soit là, soit pas là, parce que la personne, éventuellement, se comporte comme si Dieu n'existait pas. Alors, je vais répondre à cette question par une question qui est simple. Qu'est-ce que ça changerait si tu te mettais à agir en considérant que tu n'es pas seul dans la pièce? C'est là la question que je poserais pour répondre à la tienne. Qu'est-ce que ça changerait si tu te mettais à agir en considérant que tu n'es pas seul dans la pièce? Éventuellement, tu vas commencer par parler à Dieu, avoir des réponses, voir des choses qui vont commencer à prendre place comme changement. Je ne peux pas dire ce que ça changera dans ta vie, mais je peux dire ce que ça a changé dans ma vie. Et on est des milliers, des centaines de milliers à dire qu'est-ce que ça a changé dans notre vie. Donc, commence par considérer que Jésus ou Dieu est avec toi dans la pièce. Et tu verras, je suis convaincu qu'il y a des changements qui vont commencer à prendre place. Yes.
Et en quoi es-tu utile en fait?
Alors bon, ça c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Dieu est non seulement utile, je crois qu'il est indispensable pour tout ce qu'il a fait, pour toucher notre cœur, pour marcher avec nous tous les jours. Et rien que la notion de Dieu permet aux civilisations aussi de respecter ce qui est bien et mal sans être croyant. Juste, rien que la notion de Dieu aide à régulariser un peu nos comportements. Là on est dans un domaine plus philosophique, mais Dieu est utile spirituellement, physiquement, psychologiquement, à tout point de vue. Dans chaque aspect de nos vies, c'est un Dieu concret. Oui.
Pourquoi y a-t-il sur la Terre différentes religions qui ne croient pas au même Dieu?
Alors, c'est une très, très bonne question. Il y a certaines personnes qui vont dire que les hommes ont inventé Dieu. Hein, c'est l'opium du peuple. Moi, j'ai plutôt envie de dire que ce que nous avons inventé, c'est la religion. Je crois que c'est les hommes qui ont inventé la religion. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions? Évidemment, il y a plusieurs cultures, plusieurs façons de penser, plusieurs niveaux sociologiques, plusieurs arrière-plans d'éducation, etc. Mais je crois que fondamentalement, l'homme, la femme, l'être humain est en recherche de Dieu. Et un des moyens, c'est peut-être pas le seul certainement, mais un des moyens, c'est de se raccrocher à une religion qui lui donne un semblant d'être en contact avec Dieu. Mais Jésus ne nous appelle pas à nous accrocher à une religion, il nous appelle à nous approcher de lui, une personne, pas une religion, de lui, une personne, et à nous accrocher à lui. Alors le fait qu'il y ait plusieurs religions démontre en fait que l'homme cherche surtout à se faire un Dieu à son image, alors qu'on est créé à son image. Et puis je vais juste finir cette question avec le texte qui va suivre dans la Bible, qui reflète bien. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, il y a dans tout être humain, chrétien ou non, cette aspiration, ce besoin de rester jeune, de vivre la pensée de l'éternité, avec ou sans religion, avec ou sans éducation chrétienne. Ça fait partie de ce que je disais, l'ADN, créé à son image. Et de cette soif-là, ben, les uns vont s'accrocher à telle ou telle autre religion. Mais Jésus n'est pas une religion.
Alors, la Bible et sa volonté ne ressembleraient-elles pas davantage aux forces invisibles que les astrophysiciens observent sans comprendre, plutôt qu'à un vieux phallocrate barbu?
Ok, alors pour ceux qui savent pas, moi, en tout cas, dans ma grande ignorance, phallocrate, j'ai dû aller voir ce que ça voulait dire. Alors apparemment c'est quelqu'un, un machiste supérieur, surtout supériorité de l'homme par rapport à la femme. Donc c'est une attitude machiste et méprisante par rapport à des personnes hautes, j'allais dire une race inférieure, une attitude comme ça. Est-ce que c'est ce grand Dieu qui est là, c'est moi, puis maintenant, vous faites ce que je vis et tout? Non. En fait, je dirais simplement que la Bible et la volonté de Dieu ne sont ni des forces invisibles, incompréhensibles, ni l'expression d'un machiste imbu de lui-même. Je réponds très simplement comme ceci. On l'a vu tout à l'heure, c'est un Dieu qui s'est rendu visible et qui est là et qui est rempli d'amour. Donc non, c'est pas un machiste, et puis on ne parle pas de force invisible, inexplicable. Oui.
Ok, mais pourquoi es-tu si difficile à trouver ?
Peut-être qu'on se complique trop la vie. Alors, on va faire court. Le prochain diapo, c'est le verset. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Tout au long de cette matinée, j'ai du mieux possible tâché d'expliquer Dieu, mais j'aimerais dire que jusqu'à un certain point, Dieu ne s'explique pas. Il s'expérimente. Je dis bien jusqu'à un certain point. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre avec la raison, mais ultimement, à un moment donné, il faut faire le pas et dire « Je crois que derrière le contenu de cette gourde, même si je ne le vois pas, je crois qu'il est bon pour moi. » Puis lorsque je fais le pas, je découvre et j'expérimente. Alors, peut-être qu'on n'arrive pas à le trouver parce que... Alors ça, encore une fois, c'est une question qui pourrait être complexe. Je la simplifie, évidemment. Mais simplement pour attirer notre attention, qu'on peut expliquer, mais à un moment donné, on est appelé à croire. Et parce que c'est comme ça qu'on arrive à croire que le monde a été harmonieusement créé et que ce monde visible tire son origine de l'invisible. Et dans notre raisonnement, on pense souvent, dans notre monde matériel, qu'il existe un monde visible potentiel. Mais c'est complètement l'inverse. Nous sommes issus d'un monde invisible. C'est le renversement et autres. Et c'est par la foi, c'est la foi. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est accessible à tous. Pas besoin d'avoir un QI très élevé, juste croire. Puis on a assez preuve d'amour de Jésus pour pouvoir oser croire. D'ailleurs, d'ici la fin de l'année, à l'église du CEP, on va avoir une série de messages qui va s'appeler « Les sept visages de Jésus ». Justement pour nous aider à trouver ce Dieu qui semble parfois difficile à trouver. Les sept visages de Jésus. Voilà.
Ok, alors ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que tu avais vraiment imaginé en nous créant? Et puis, comment serait le monde aujourd'hui si on ne s'était pas éloigné de toi?
Le paradis! That's it! Un monde parfait. Un monde parfait, tout simplement. Je vais terminer avec cette diapo-là. On parle de Dieu quand je disais qu'on ne peut pas expliquer Dieu. La Terre, vue à 3,7 milliards de kilomètres, peut-être que vous ne le voyez pas dans le fond. Chers amis, l'église du CEP, nous sommes là, ça c'est la planète Terre, et on veut expliquer Dieu. Oh. Ça c'est juste ce qui est permis, ce que l'on peut. C'est juste l'univers observable par nos technologies actuelles. Ça c'est ce que nous on peut observer. On est là. C'est sur Instagram que j'ai vu ça, et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Waouh !» Et le gars, il a écrit ceci. C'est ici notre maison, tout ce que vous aimez, tout ce que vous connaissez, tous les êtres humains qui l'ont jamais été, ont vécu leur vie là. La somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques, chaque chasseur, chaque héros et lâche, chaque créateur et destructeur de civilisation, chaque roi et paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et père, enfant plein d'espoir, inventeur et explorateur, chaque professeur de morale, chaque politicien corrompu, chaque superstar, entre guillemets, chaque leader suprême, chaque saint et pécheur de l'histoire de notre espèce y vivait sur une paille. De la poussière est suspendue dans un rayon de soleil. Et comme un ami me le disait dans les réponses aux questions du clip plutôt, on ne pose pas de questions à l'air qu'on respire, on le respire. Dieu se situe au-delà des questions du raisonnement. Dieu est. Tellement qu'il est tout autant difficile de prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et je termine en disant, jusqu'à un certain point, Dieu ne s'explique pas, il s'expérimente. Merci beaucoup pour votre attention, je sais que c'était long. On se retrouve si vous avez d'autres questions et tout. Voilà, merci. Ah ouais, c'est vrai. La petite dernière, c'est vrai, j'avais zappé celle-ci, ça vaut la peine. Nous avons, je le dénoncerai pas. Est-ce qu'on a l'humour du dimanche, la photo? Voilà, juste quand même vous finir avec cette belle image. Nous avons à l'église du CEP quelqu'un qui a ouvert un compte sur Instagram qui s'appelle humour.dudimanche. Quand tu réalises tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà le mimes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions. En tout cas, yes! Bon appétit à tous. Merci Pierrick. Merci pour votre patience encore une fois.
Ok, on va faire vite parce que vous avez faim. Enfin, j'ai faim. Mais... donc on va faire ça vite. La vie de l'Église, c'est pas que le dimanche matin ici, c'est tout le reste de la semaine, tout le reste de l'année, et c'est pas que ici, c'est aussi ailleurs. Là, on veut d'abord juste laisser la place à Floriane, qui est quelqu'un de notre Église, que si vous êtes de l'Église, vous la connaissez. Si vous n'êtes pas de l'Église, c'est une enfant de l'Église, j'ai envie de dire. Elle a grandi ici, et on est content parce que ça prouve que Dieu existe aussi, c'est qu'elle veut s'investir pour Dieu. Moi, je ne mettrais pas ma vie dans un truc qui n'existe pas, ça serait un peu de la folie, et je crois pas qu'elle est... folle, Floriane, enfin un petit peu quand même, mais une bonne folie. Et on veut juste lui laisser la place parce qu'elle va bientôt nous quitter pour repartir dans cette folie que Dieu a mis en elle. Et donc je laisse nous expliquer ça en 5 minutes, même 6 si tu veux.
Non, je vais faire rapidement. Donc comme il a dit Pierrick, c'est mon dernier week-end ici, je vais repartir. Et là, normalement, tout le monde fait « Oh !» Mais je vais partir à Lyon et Lyon, c'est tout proche. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer, mais c'est pour ça qu'il y a mon numéro là, pas parce que oui, je suis aussi célibataire, mais en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp et en fait, j'ai à cœur de mettre sur ce groupe des nouvelles. Je vais aussi, pour l'instant, il n'y a rien, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que je repars, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Donc, si vous avez à cœur d'être dans ce groupe, c'est un groupe, vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui parle. Donc, ça ne partira pas en live, ça ne fera pas que de faire bzz, bzz comme ça là. Si vous voulez m'écrire, par contre, vous pouvez me répondre en message perso. Donc, soit prenez mon numéro, envoyez-moi un message, demandez à Audrey, ma maman, mon papa, mon numéro et ce sera un plaisir de vous ajouter sur le groupe. Il n'y a que moi qui parle sur ce groupe. Cela dit, je serais ravie de recevoir de vos nouvelles à vous aussi et vos sujets de prière, s'il vous plaît. Je serais super heureuse de pouvoir intercéder aussi et de prier pour vous. Donc, je repars à Jeunesse en Mission. C'est une association chrétienne missionnaire pour ceux qui ne le savent pas. Je serai à Lyon et puis je vais encadrer les écoles de disciples. On va vous mettre juste une petite vidéo pour vous montrer, comme ça vous pouvez un peu voir en image avec des mots qu'est-ce que c'est, parce que c'est un peu vague, c'est un peu fou. Et juste un petit témoignage, parce que j'ai un ami qui m'a encouragée récemment et qui m'a dit « L'école de disciples, pour moi, ça a vraiment été, ça a changé ma perception de voir Dieu, de me voir moi-même, comment est-ce que je suis un témoignage autour de moi. » Et du coup, si vous pouvez nous joindre aussi dans cette prière, c'est ma prière que des jeunes soient envoyés pour cette école de disciples, ceux qui ont besoin justement d'être fortifiés dans leur identité, d'être fortifiés dans la connaissance de qui Dieu est, et pour qu'ils puissent être de retour chez eux dans le monde séculier. Ce gars-là, il est dans le monde séculier pour être des témoignages incroyables en feu pour Dieu. Donc voilà, si vous pouvez vous joindre à ces prières, et puis je vous laisse regarder la vidéo. Merci.
EFD, c'est le diminutif pour École de formation de disciples. C'est une école créée par Jeunesse en Mission, plus connue sous le nom de YWAM. Jeunesse en Mission est une organisation internationale et interdénominationnelle. Nous sommes présents dans plus de 180 pays. Et notre devise, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Comment se prépare-t-on à être disciple? L'école dure 6 mois et se divise en deux phases. Premièrement, la phase théorique, puis la phase pratique. Pendant la phase théorique, tu auras chaque matin des enseignements pour connaître Dieu, qui il est, quel est son caractère, que dit la Bible. Tu auras également des ateliers artistiques qui te permettront de découvrir et développer tes talents. Des sorties à Lyon chaque semaine pour faire connaître Dieu aux Français, aux Lyonnais. Ensuite vient la phase pratique. Environ 3 mois de mission à l'étranger. Pour servir, partager, pour donner ce que tu as reçu, sortir de ta zone de confort et découvrir ton appel. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Psaume 78, verset 4. Dieu est un Dieu de génération. Sur son cœur est inscrit la famille. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu veux investir dans ta relation avec Dieu? Que cela impacte ta vie et influencer celle des autres? Viens faire l'EFD Nouvelle Génération à Lyon.
Ok, donc on veut s'engager à soutenir Floriane dans ses besoins spirituels, prier pour elle et aussi certainement dans les besoins matériels. Et puis je propose juste qu'on l'applaudisse pour lui montrer notre amour qu'on a pour elle. Trois, quatre annonces encore. Il y a de la vie dans cette église. Le mardi, il y a l'étude biblique des aînés, c'est à 14h30 chez René Nelly, c'est ça? Donc vous savez, si vous ne savez pas et que vous vous sentez aîné, retrouvez quelqu'un d'autre que vous sentez aussi aîné. Hein, des cheveux blancs, pas trop de cheveux, il y a des pièges, mais bon, vous arriverez à trouver. Les aînés, les jeunes, samedi prochain, il y a la reprise du groupe de jeunes à 20h. Donc si vous vous sentez jeune, entre 15 et 25 ans, par là, essayez de trouver aussi quelqu'un de jeune. Les responsables des jeunes, il y a Pierre qui est là, tu peux lever la main juste. Voilà, vous allez voir Pierre qui est là, et puis il vous renseignera sur tout ça. Je vous invite fortement à y aller, ça sera des bons moments. Et puis c'est bien de commencer l'année directement avec les personnes. Dimanche prochain, on a le culte, vous êtes largement invités. Hein, vous avez le droit de venir tous les dimanches, hein, il n'y a pas de souci. Et puis encore, je m'adresse aux théologiens. Tu peux passer la diapo de Stéphane, s'il te plaît. Vu qu'il y a des théologiens qui ont été frustrés par les réponses, là, je l'ai entendu. Ça tombe bien. Il y a Stéphane. Tu peux lever la main, juste, s'il te plaît. Merci. Tu peux passer le PowerPoint. Stéphane, il va une fois par trimestre, je crois, hein, ou un petit peu moins. Ouais. Ouais. Voilà. À des cours de théologie à l'Institut biblique de Nogent Paris. Ouais. Sur Lyon, j'ai eu un bug. Donc voilà, les détails sont là. Tu peux montrer les prochaines dates. Voilà, le prochain cours, il est le 28 septembre, dans deux semaines. Vous voyez les sujets qui sont là. Si vous êtes intéressé par ces cours, ça ne coûte pas très cher, 80€ par séance, allez voir Stéphane, il vous renseignera, vous pourrez faire du covoiturage avec lui. L'année dernière, vous étiez deux à y aller, je crois. On verra, voilà, entre deux et quatre. Donc allez voir Stéphane, il n'y a pas besoin d'avoir une base nécessaire. N'importe qui peut y aller, hein. Ok, ouvert à tout le monde, même aux non-théologiens, et c'est pas une histoire de théologie, c'est une histoire de connaître la parole de Dieu et de s'enraciner dedans. Donc on vous invite à vous rapprocher de Stéphane. Il me reste à vous dire, pour ceux qui sont membres de l'Église, ça fait un peu tout de suite, ouh, il y a des membres et des pas membres. Ouais, il y a des membres dans cette Église parce qu'on est régi par une association légale. Venez juste me voir à la sortie, je vous donnerai des bulletins de vote pour qu'on renouvelle le mandat de Philippe. Donc venez juste me voir pour ça. Et le dernier truc, tout ça à l'apéro, c'est par là. Bon dimanche à vous.